C'est 23.
Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
Je l'ai dit, sans souhaiter de mal à personne, des fois, comme c'est pas la fatalité, là, mais il y a des cycles, il y a des règnes et il y a des fins de règne. Et clairement, en tout cas, à moins que quelqu'un sache quelque chose que moi je sais pas, ou que vraiment qu'il y ait une tournure des événements inattendus qui se produisent, on assiste à la fin du règne de Marc Bergevin comme dirigeant hockey des Canadiens de Montréal. Et je ne suis pas convaincu que... Et en fait, je suis convaincu que la situation actuelle n'est pas meilleure que celle dont il a hérité. Je calcule qu'il a quand même eu un pas pire héritage quand il est arrivé, avec en plus le timing d'une année médiocre qui a provoqué des changements. Puis c'est comme ça, comme l'année médiocre qu'on vit là va aussi provoquer des changements. Je sais pas s'il y en aurait eu de toute façon, mais clairement que c'est sûr qu'après une finale de la Coupe cette année, c'est une bonne année, c'est une autre paire de manches. Mais il reste que quand Marc Bergevin a roulé les yeux sur l'estrade par rapport au fait que dirigeant Montréal, ça va pas l'air bien le fun, au lendemain de la finale, il a changé l'agenda. C'est sûr et certain. Il a irrité son propriétaire qui s'est demandé, voyons, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit ça? Ben parce qu'il était dans le néant, puis il avait pas eu réponse qu'il aurait souhaité avoir après avoir amené son équipe en finale. Mais il reste que, bon, il y a plein de raisons pour lesquelles Jeff Molson peut-être avait décidé de pas agir ou de pas concrétiser ce qui semblait être un renouvellement de contrat ou une prolongation presque automatique. C'était dans les airs. Mais il faut se souvenir qu'avant d'aller en série, ça allait pas très bien pour les Canadiens. En plus de ça, sans qu'on le sache, en parallèle, le Canadien savait que il y avait l'enquête à Chicago. Et que ben leur directeur général allait être parmi les personnes interrogées. Fait qu'il y avait quand même plusieurs raisons qui faisaient que, oh, peut-être, time out, on va regarder comment tout ça se déroule, puis on aboutira. Et la question que je vais vous poser, je vais ouvrir les circuits téléphoniques à l'instant, à 514-790-9850. Mais la question, c'est que, dans un prochain organigramme hockey du Canadien, quelle est la clé pour vous? Qu'est-ce qui est important? Au-delà du nom, je veux pas un festival de noms. C'est quoi la qualité première qu'on devrait rechercher d'un prochain dirigeant? Et c'est sûr qu'il y a des noms qui vont... Tu sais, il y a des qualités qui vont nous conduire à nommer du monde. Et évidemment, je ne vais pas vous couper, là. On a le droit de parler, puis on a le droit de mettre des noms sur la table. Mais quand tu veux procéder à des changements, tu vises le top. Tu veux le meilleur dans business. Est-ce qu'on peut identifier quelqu'un comme étant le meilleur dans business, et j'ajoute, qui correspond au profil qu'on recherche à Montréal, qui implique bien sûr la capacité de s'exprimer dans la langue du peuple qui habite le territoire? Et cette personne-là pourrait-elle diriger ailleurs pour nous prouver que, tu sais, dans le fond, parce que, tu sais, nous autres, on a beau se faire croire que quelqu'un, c'est la meilleure personne, mais si cette personne-là n'est pas en mesure d'obtenir d'autres emplois ailleurs, on peut se poser la question, bon, mais peut-être qu'on le voit plus gros qu'il est. Il y a des bons noms. Il y en a bien plus que certains voudraient l'admettre, des candidats à un poste de direction générale du Canadien de Montréal. Le meilleur actuellement dans business qui correspond au profil et qui est en dehors de Montréal, ben il vient d'enfiler sa deuxième bague de la Coupe Stanley. C'est Julien Brisebois. Donc, plusieurs font un X sur Julien Brisebois en disant, ben, il vient de renouveler son contrat avec Tampa Bay. Moi, ça me dérange pas qu'il ait signé un contrat avec Tampa Bay. Si l'entourage secret qui consulte ou qui conseille Jeff Molson a quelqu'un recommandé au propriétaire, et moi, je fais pas partie, mais j'aime ça m'inviter à la table de concertation de par les ondes, qui des fois se ferait un chemin dans les oreilles de ben du monde, malgré le fait que Julien Brisebois ait signé une nouvelle entente avec le Lightning de Tampa Bay, il demeurerait ma cible numéro un. En fait, la question où ce que je soulèverais ou je suggérerais à Jeff Molson, c'est trouve une façon de sortir Julien Brisebois de Tampa Bay. Et en sortant Julien de Brisebois de Tampa Bay, tu vas dire, ben non, mais il changera pas 4,30 sous pour une pièce, dollars US, pas d'impôts, la famille est bien en Floride. OK, c'est correct. Je vais continuer avec mon raisonnement parce que j'ai jasé avec pas mal de monde aujourd'hui, puis je sais que mon raisonnement, c'est pas tout le monde qui l'achetait. Un autre candidat, c'est Mathieu Darche. Serge Chavard en a parlé. Mathieu Darche travaille pour Julien Brisebois. Puis, c'est sûr que Julien Brisebois donnerait sans aucun doute la permission à Mathieu Darche de négocier avec le Canadien si le Canadien disait « on aimerait ça approcher Mathieu Darche pour qu'il devienne notre nouveau directeur général ». Là, on pourrait discuter est-ce que Mathieu Darche est le meilleur candidat pour ce job-là. Il y en a qui me parlent de Martin Madden. Moi, je vous dis une chose. N'oubliez pas une affaire. C'est le marché de Montréal ici. T'sais, ça prend la personnalité qui va avec. Tu peux pas engager quelqu'un qui connaît pas le marché de Montréal. Tu peux pas... Puis je dis pas que c'est une erreur. T'sais, on a essayé quelque chose. Il y a eu des bons moments avec Marc Bergevin. Il y en a eu des moins beaux. Comme là, on est dans un moment qui est pas facile. Mais je pense qu'une des choses qui a peut-être nuit à Marc, c'est le fait que ça faisait 25 ans, 26 ans qu'il était en dehors de Montréal. Donc, le marché québécois, il avait une connaissance comme ci, comme ça. Puis je dis pas que c'est si important que ça. C'est du hockey d'abord, mais moi, je pense que c'est quand même pas banal. Donc, tu sais, on peut mentionner bien des noms. Puis c'est pas... Je n'exigerais pas que c'est quelqu'un qui ait joué pour le Canadien. Mais il y a des bons candidats parmi ceux qui ont déjà porté le chandail. Et Mathieu Darche, soit dit en passant, bien qu'on ne l'inscrive pas dans les légendes des Canadiens, a joué pour les Canadiens. Fait que c'est quand même pas banal. Ça y fait un autre critère. Mais je reviens à Julien Brisebois. Mettons que Julien Brisebois, le téléphone, donnerait-il la permission pour qu'on négocie avec ton homme Mathieu Darche? Moi, je me mets dans la tête de Julien. Je sais pas. Et puis, il m'a pas rien confié, puis jamais il ferait ça. Il a un nouveau contrat, il vient de gagner 2 coupes, puis il va peut-être en gagner 3 de fil. Julien Brisebois est un produit de l'Organisation des Canadiens de Montréal. Quand je regarde l'équipe qu'il avait mise sur pied avec les Bulldogs d'Hamilton, dirigée par Guy Boucher en 2009-2010, je me dis qu'il devait faire une pas payée job. Et donc, le changement de propriétaire a fait en sorte que Julien Brisebois n'avait plus. Ben, je pense, on lui a offert de rester. Fait que lui, il a pris la décision. Probablement qu'il voyait ça aller. Puis je pense qu'il a pris une brillante décision. Il a pris la décision d'aller voir ailleurs. Et il est allé travailler à Tampa Bay. Et en arrivant là, aux côtés de Steve Yzerman, pour les gens qui disent, ben oui, Brisebois, il a eu un clé en main à Tampa Bay. Attendez une petite minute, là. Si vous ne voyez pas ou si vous ne savez pas à quel point Julien Brisebois a eu une input très, très concret et direct dans la formation de cette équipe-là, dans les embauches d'entraîneurs, ben, faut pas chercher bien loin. Qui ont été les premiers entraîneurs ou les premiers entraîneurs embauchés par l'administration Yzerman à Tampa Bay? C'est Guy Boucher. C'est Guy Boucher avec Daniel Lacroix puis Martin Raymond. Il y a une signature là. Il y a une signature Julien Brisebois. Donc, le clé en main, il y a participé. Il y avait une copie des clés, lui-là, là. Il participait. John Cooper. C'est John Cooper est embauché par Julien Brisebois à Syracuse pour diriger le club école, le Crunch de Syracuse. Le succès recueilli à Syracuse a amené John Cooper dans la Ligue nationale. C'est signé Julien Brisebois. Puis c'est sûr qu'il est épaulé par Steve Yzerman, là. Je dis pas qu'il faisait tout ce qu'il voulait sans consulter, au contraire. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas un clé en main. Parce que lui, il a eu du flair. Puis quand on regarde ça, alors qu'on s'interroge sur la qualité des ressources chez le Canadien dans la relève, quand tu regardes l'équipe que dirigeait, donc, pour revenir à ça, Guy Boucher, en 2009-2010 à Hamilton, t'avais Desharnais qui avait 78 points en 60 matchs. Vous allez me dire, là, OK, t'as pas pareil, c'est pas en 1942, là. C'est en 2009-2010. Desharnais, a 78 points en 60 matchs. Fait longtemps qu'on n'a pas eu un ratio de points comme ça pour ceux qui n'ont pas apprécié Desharnais à sa juste valeur et sa contribution. Subban était à Hamilton, 53 points en 77 matchs. Il y a des gars qui sont venus faire des petites visites. Puis il y a des gars qui ont eu des très belles carrières dans la Ligue nationale qui étaient là également. Tom Pyatt, c'est une espèce de Lekkonen. Je les ai souvent comparés, mais il y a quand même 445 matchs en Ligue nationale. Il était à Hamilton. Ryan White a joué 313 matchs en Ligue nationale en saison régulière. Tu sais, c'est Yannick Weber, Mathieu Darche était là. Il y a eu une couple de gars qui ont eu des essais. Sergei Kostitsyn était là. Max Pacioretty jouait ses premiers matchs cette année-là du côté d'Hamilton. Marc-André Bergeron, que Guy a rapatrié par la suite, et Julien Brisebois ont rapatrié à Tampa Bay. Ils ont fait une finale de conférence. Et tout ça pour vous dire que, donc, quand il y a eu un changement de propriétaire, Julien a décidé d'aller prendre l'expérience ailleurs et ça a été génial parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu. Il est devenu l'adjoint de Steve Yzerman. Yzerman, il a donné complètement le trousseau de clé. Et là, ben, Julien est le boss à bord. Bon, où est-ce que tu aboutis avec ça? Steve Yzerman a quitté le Lightning de Tampa Bay avant que l'équipe gagne des Coupes Stanley. Pourquoi? Il y avait peut-être des raisons personnelles, je ne les connais pas. Mais la raison professionnelle, en tout cas une des raisons professionnelles, c'est qu'il est retourné dans l'organisation qui l'a accueilli comme joueur à ses tout débuts en carrière. Il est retourné avec les Red Wings de Détroit. Or, je reviens à Julien Brisebois qui reçoit l'appel pour dire « On peut-tu négocier avec Mathieu Darche? » Mais semble que, et là c'est moi qui spécule, mais semble que Julien, il va dire oui, mais avant de dire oui, il va se dire « Hey, j'ai peut-être des fourmis, moi, puis des papillons dans l'estomac, l'idée que le Canadien de Montréal, waouh, c'est là que j'ai passé mes 9-10 premières années professionnelles. Je veux-tu donner la permission aux Canadiens d'engager mon homme ou je veux y aller moi-même? Mais j'irai pas 4,30 sous pour une pièce. » Comment sortir Julien Brisebois de Tampa Bay? C'est pas compliqué, c'est de même que ça marche. Théo Epstein, Red Sox de Boston, Cubs de Chicago. À toutes les fois que Théo Epstein a pris une décision, c'était pour obtenir une promotion. Il a été directeur général d'abord, Série mondiale en 2004. Il a 30 ans. À un moment donné, il y a un petit refroidissement, ils ne se sont pas entendus. Il revient, on lui donne la vice-présidence exécutive et la direction générale en 2006. Et ça se poursuit, puis finalement, il quitte. Il quitte pourquoi? Pas pour 4,30 sous pour une pièce, il quitte pour une promotion. Et il s'en va président des Cubs de Chicago. Alors, si Jeff Molson ou quelqu'un dans son entourage pense que c'est une bonne idée, l'idée, c'est d'offrir et demander au propriétaire du Lightning de Tampa Bay la permission de négocier avec Julien Brisebois et de lui offrir la présidence des Canadiens de Montréal. Ça serait pas mal ça, mon plan. Tampa Bay peut toujours dire non. Mais ça se négocie, ces affaires-là. Ça se demande. Me donnes-tu l'autorisation? Je veux lui offrir la présidence de mon organisation. Et ça part de là. Jeff Molson peut avoir un autre dirigeant en tête. Il peut peut-être penser à un ancien Canadien. Mais j'insiste, Julien Brisebois est un ancien Canadien qui n'a pas chaussé les patins. Il a été formé aux côtés de Bob Gainey, de Pierre Gauthier. Il a côtoyé André Savard. Il a embauché Guy Boucher. Tu sais, il a grandi dans cet environnement-là. Il connaît le marché de Montréal. C'est un gars quand même qui a l'allure d'un meneur d'entreprise. C'est pas un gars qui a joué dans la Ligue nationale, mais ça lui a pas empêché d'être un membre très, très actif de l'administration qui a amené la Coupe. Alors moi, je pense que si Jeff Molson, offrait la présidence à Julien Brisebois ou obtenait la permission de lui parler, lui offrait la présidence avec un contrat de 7 à 10 ans. On parle pas d'un coach, là. Tu n'as pas des tempêtes aux 3 ans. Là. Un 7 à 10 ans, ce que ça coûte, ce que ça vaut, que Jeff accepte de prendre du recul lui-même comme le chef hockey de l'entreprise, ben c'est lui. Est-ce que Julien Brisebois amènerait Mathieu Darche dans le même voyage? Je sais pas. Ça pourrait être une autre option intéressante, mais ça part de là. Ça part de là. Moi, je pense que c'est très certainement l'option la plus intéressante. Il y en a d'autres qui m'intéressent. Je suis pas insensible à l'absence d'anciens Canadiens dans l'environnement du Canadien. Il y a des bons noms, là. Tu sais, je pense à Carbeau, je pense à Patrick, je pense... Tu sais, c'est les plus évidents. Et il y en a un paquet d'autres, là. Il y en a d'autres, mais c'est les visages les plus évidents. Moi, j'en veux des gens du Canadien qui incarnent le Canadien chez le Canadien. Je ne pense pas qu'il y en a trop en ce moment. Mais si je vous demandais, pencheriez-vous vers une administration présidée par un Julien Brisebois ou davantage par un ancien joueur du Canadien? Et souhaitez-vous qu'il y ait un rapprochement, que ça soit visible? Puis là, puis dans quel rôle? C'est pas obligé d'être président. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Je serais très curieux et de vous lire là-dessus également à la messagerie texte. 514-790-9850. Et il y a de très, très bons noms. Daniel Brière, Patrick Roy, de nous dire Jean-Sébastien Lucier, où il dit moi-même. Il parle de lui, pas de moi. Dominique nous dit, quitte une belle température en Floride, une équipe championne. Brisebois ne voudrait pas, il me semble. Mais pourquoi Steve Yzerman a quitté la Floride avant de gagner des coupes et que Julien Brisebois ne la quitterait pas après de n'avoir gagné? Revenir dans la ville où que le hockey, c'est tout. Je vous dis ça de même. Si tu vises le meilleur, faut que tu sollicites le meilleur. Puis ça se peut que tu aies un nom. 514-790-9850. Messagerie texte. Profil avec expérience en scouting. Très certainement. Et oui, il y en a plusieurs qui me disent ça. Brisebois va te dire, je suis ben trop bien, Tampa Bay, je veux rien savoir d'un marché de fou comme Montréal. Il va rire de moi. Ben oui, il va rire de moi. Ça se peut. Ben moi, je veux qu'il me rie d'en face, tu sais, je veux l'essayer, je veux... Vous avez le droit de réagir comme vous voulez. Moi, je pense que c'est sûr et certain que quelqu'un qui se fait offrir une job de même, là, tu te fais offrir la présidence, écoute bien, là, la présidence des Canadiens de Montréal. Là. Hey, viens pas me dire que tu pars à rire d'en face de quelqu'un là, quand tu sais c'est quoi le Canadien de Montréal. Sinon, t'es un moyen bozo. Là.
Résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
Nous accueillons Guy Boucher. Bien le bonsoir, Guy.
Bonsoir.
Avant d'entrer dans les gros sujets, là, je m'amuse avec les gens. Beaucoup, beaucoup de messages à la messagerie texte. Puis je t'en parlais un petit peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que tu as vu un meilleur duo? Puis sûrement, en fait, je dis pas que c'est le meilleur de tous les temps, mais c'est du gros calibre. Dreisaitl, McDavid. Là. Quand tu penses à deux gars autour de qui tu peux bâtir une équipe ou qui charrie une équipe, Guy. Dans la Ligue actuellement, je sais pas si tu envoies des meilleurs qu'eux, puis si on y va all-time de tous les temps, qui te vient en tête quand tu penses au meilleur duo de l'histoire?
Ben, premièrement, que tu me dises qu'est-ce que tu veux, comment tu définis duo? Est-ce que c'est des gens qui jouent ensemble sur une base constante ou c'est juste deux individus dans la même équipe?
Ben, écoute, c'est un peu des deux, mais j'aimerais, dans les paramètres, je vais te dire deux gars qui se croisent au moins sur le jeu de puissance. Au moins sur le jeu de puissance, puis qui deviennent, si tu veux, tes deux, les deux poteaux qui tiennent le chapiteau.
Ben, parce que c'est sûr que tu as Crosby et Malkin ensemble qui ont joué rarement ensemble en 5 contre 5, mais qui jouaient ensemble en avantage numérique, ça c'est semblable, évidemment.
Oui.
Mais moi, quand tu me dis du haut, ben, tu sais, évidemment, il y a Mario Lemieux. Mais moi, le mot du haut, c'est deux individus qui jouent ensemble.
D'accord.
Sur l'avantage numérique à 5 contre 5. Puis moi, je vois pas le meilleur duo dans l'histoire de la Ligue Gretzky Curry. C'est Gretzky qui est le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue, avec Curry, qui les deux avaient une chimie exceptionnelle, puis c'est une chimie qui a perduré tout le temps qu'ils étaient ensemble. Alors moi, ça serait mon choix, puis c'était mon équipe, puis eux puis les Nordiques dans le temps. Alors,
alors tu aimais les équipes offensives, donc dans la même catégorie, si je suis tes paramètres, c'est-à-dire des compagnons de trio réguliers, ce qui est intéressant également, parce que ça rétrécit un petit peu le comment dirais-je, ça précise le tir un peu. Donc, Peter Stastny et Anton, tel que me l'ont suggéré plusieurs personnes à 9-8-1-5 à messagerie texte, ça serait d'un pas pire, ça aussi. Je ne les mets pas dans la même catégorie que Coury Gretzky, mais c'était du bon calibre, toi qui étais un ancien partisan des Nordiques.
Ben absolument, puis c'est quand même intéressant. Là. Je m'étais posé la question des années 90, je pense que 90, en tout cas, je pense que 90. Et après, Wayne Gretzky, qui est le joueur qui avait le plus de points dans la Ligue nationale? Et la réponse était Peter Stastny.
Exactement.
Et ben évidemment, oui, les deux frères ensemble étaient génial, mais c'est sûr que si Gretzky est en avance individuellement, je pense que Curry est en avance aussi sur Anton. Alors c'est pour ça que oui, je préfère. Avec la question que tu me poses là, je demeure avec Gretzky Curry.
Dans ce que tu as vu de tes années actives, Ligue nationale, tu es toujours actif, mais je veux dire de se continuer d'observer. Les Sedin, tes places-tu haut? Des compagnons de trio réguliers, c'était-tu du gros calibre? Comment tes places?
Ben, je pense que oui, parce que c'est certain que la synergie était exceptionnelle. Évidemment, deux frères qui ont joué ensemble toute leur vie. Par contre, je pense que quand on regarde le succès d'un duo, il faut quand même regarder aussi le succès collectif que ces individus ont engendré. Puis,
oui.
Ben, mais c'est pas des individus qui ont gagné la Coupe Stanley. Alors, si on parle de Gretzky et Curry, c'est deux individus qui ont gagné la Coupe Stanley à plusieurs reprises. Alors, déjà là, je pense que c'est des gens qui sont 1 000 en avance sur les Sedin. Mais oui, c'est sûr que c'était une combinaison infernal, si tu veux, dans l'état moderne, et spécial, parce qu'évidemment, une synergie comme ça, je pense que ça peut pas exister sauf entre deux frères, mais même si c'est des grands joueurs, c'était pas des joueurs aussi exceptionnels que Sidney Crosby et Mario Lemieux et David et ces joueurs-là.
T'as dirigé contre Ovechkin, Backstrom?
Ah, écoute, ça, c'est sûr que c'est dans les meilleurs de l'histoire. Ovechkin va peut-être finir le meilleur marqueur de l'histoire s'il continue sur cette lancée-là. Et puis Backstrom, c'est quand même, je veux pas dire qu'il était sous les radars, parce qu'évidemment, c'est quand même une vedette de la Ligue nationale, mais je pense que quand t'es dans les coulisses de la Ligue nationale, de la sphère de la Ligue nationale, ben, t'es appelé à l'étudier de fond en comble parce que tu joues contre lui régulièrement. Et puis, je te dirais que c'est peut-être par rapport à la qualité d'individu, la qualité de joueur dans les deux sens de la patinoire, tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. Parce qu'évidemment, Ovechkin prend tellement de spotlight que on a tendance à reléguer Backstrom peut-être à un second rôle, alors qu'il est un joueur exceptionnel qui a vraiment été au cœur des succès de Washington pendant plusieurs années. Puis moi, je l'admire beaucoup parce qu'il a une intelligence vraiment hors du commun.
Oui, j'apprécie ton commentaire parce que j'apprécie le jeu de Backstrom. Pis c'est pas toujours. Pis c'est bon parce que c'est un bon duo. Il y en a un qui attire toute la lumière puis qui est capable de vivre avec, même qui carbure peut-être à ça. Puis Backstrom le complète à merveille. J'ai envie d'étirer parce que là, les gens interagissent avec nous. Tu sais comment ça marche, ta messagerie texte, ça s'emballe. Puis là, les gens m'amènent des duos de défenseurs aussi. T'as dirigé quand même une couple de gars de gros calibre. Je pense juste à Eric Carlson. Fait que dans le cas de Carlson, je sais pas si on peut parler de duo. N'importe qui tu mettais avec, c'est lui qui charriait. Charriel duo, mais tu sais, des gars comme Niedermeyer, il y en a qui me parlent de Lidstrom, Cronwall, même si on remonte plus loin, Serge Chavard, Larry Robinson, ben, on avait le Big Three aussi, fait que c'est rare qu'on l'a amené dans la notion de duo, mais est-ce qu'il y a un duo de défenseurs qui te vient en tête comme quelque chose qui était dominant?
Ben, c'est drôle, hein, que tu dis ça, parce que, à penser vite, j'ai beaucoup plus des défenseurs individuellement qui m'ont marqué, mais des duos. Je pense que c'est difficile de qu'on parle à Raymond, on passe de Raymond Bourque, Lidstrom, tous ces gars-là. J'ai eu la chance de coacher pendant Lidstrom. Ça, c'est une constance phénoménale. Raymond Bourque, la même chose. T'sais, tu parles d'Eric Carlson en termes de talent, je te dirais que c'était même plus talentueux que Crosby que j'avais déjà eu. C'est juste le talent pur, là. On parle pas du package deal, de tout le reste, mais en talent pur.
Là, tu parles de Carlson, Guy, là?
Oui, Carlson, oui, écoute ça, c'est quand Carlson est à son meilleur, là. Je pense pas que j'ai vu meilleur, mais tu sais, évidemment, Carlson n'était pas toujours à son meilleur. Tu sais, tandis que Crosby a quand même atteint une constance, puis c'est quelqu'un qui a réussi à faire gagner son organisation, puis c'est quelqu'un qui rehausse le standard de tout le monde autour. Donc, je pense que c'est presque pas comparable.
Il est inspirant.
Oh mon Dieu, c'est quand Crosby est là, même à 16 ans, là, c'est. T'as pas le choix d'être excellent autour, de donner tout ce que t'as parce que tu vas le savoir, puis tu le regardes aller. Tu sais, c'est dans les mêmes lignées que les Michael Jordan, puis tous les grands athlètes qui ont des intangibles tellement puissants qu'ils te tirent dans leur direction. Ils font pas juste t'inspirer, ils font pas juste te pousser à performer ils font pas juste te supporter, ils vont vraiment te tirer, c'est-à-dire qu'ils prennent le lot de la charge et ils t'amènent avec eux, puis t'es aspiré par l'attitude, le télétravail, la discipline, du coup, c'est des individus tellement puissants. Et c'est pour ça que ces individus-là vont gagner à plusieurs reprises. J'invite les gens, je ne sais pas si les gens ont écouté le reportage, je pense que c'était à Netflix, là, sur les Bulls des années 90.
The Last Dance.
The Last Dance. Écoute, c'est le meilleur reportage de sport que moi j'ai jamais vu. La raison est simple, c'est parce que c'est la première fois et probablement la seule fois que je vois de la télévision réalité où on a, oui, c'est sûr qu'on a édité ça, mais où on laisse énormément de vraies séquences, de vrais moments, de vraies réactions dans le feu de l'action, dans les coulisses. Habituellement, ce qu'on voit aujourd'hui, même dans l'hockey, ce qu'on a fait avec Toronto là, récemment, Prime et tout ça, c'est intéressant. Mais par expérience, je vois que c'est édité pour, évidemment, pour écorcher personne, de rendre ça un petit peu dramatique à certains moments, mais vraiment de protéger. Tandis que la série sur les Bulls, elle est différente parce que, étant donné qu'on est rendu loin dans le temps, il y a un écart de temps, on a osé révéler des choses qu'on n'aurait jamais révélées dans le temps, parce que évidemment, ça aurait été trop chaud comme sujet à ce moment-là pour aborder ça. Alors, avec le recul, puis même là, évidemment, il y a eu des réactions, mais le recul était assez grand et assez long pour qu'on puisse quand même juste bénéficier de tout ce que c'était, de vrai réel regard sur ce que c'est le sport professionnel et ce que les athlètes de premier niveau ont à vivre.
Là, c'est un petit bijou.
Sans vraiment amener amener le négatif là, qu'on voit souvent parce qu'on essaie de s'attaquer justement à ce qu'on voit là. Alors moi j'ai adoré. Écoute, c'est tellement puissant. Puis si on regarde Michael Jordan, on comprend que c'est des alpha mâles, des alpha mâles là. C'est impressionnant.
Oui, t'as raison. Puis d'ailleurs, ça, on pourrait facilement développer. Mais là, je sens qu'on partirait d'une méchante discussion. Mais tu sais, c'est pas tout le temps des plaisants qui amènent une équipe vers le haut, hein. Puis ça a peut-être évolué dans la façon d'exprimer son caractère. Mais tu sais, si on reste pas longtemps, juste une petite couche de plus là-dessus, et t'en as peut-être coaché. Tu sais, c'est comment dirais-je, ça prend pas juste des bons garçons pour faire une équipe. Puis je dis pas que c'était un mauvais garçon, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, il y en a qui sont pas évidents à vivre avec, là.
Non, ben c'est je pense que la clé dans tout ça, c'est les exigences pour des standards qui sont une cible mobile, si tu veux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont jamais satisfaits. Et ça, c'est de tous les grands athlètes que j'ai eus, là. Il y a eu Martin Saint-Louis, c'était pareil, t'sais, Crosby, tout ça. Edmund, c'était quelqu'un comme ça aussi, Carlson. C'est gars, j'ai coaché Tavares, j'ai été chanceux à avoir fait une fois équipe Canada. Évidemment, j'ai eu beaucoup d'athlètes de premier niveau. Et ce qui est commun à tous ces individus-là, c'est qu'ils ne sont jamais, jamais, jamais satisfaits. Ils n'en ont jamais fait assez. Ils ne s'assoient jamais sur leur laurier. C'est question après question. Ils veulent être défiés, puis challengés, poussés. Ils veulent des nouvelles tendances. Ils veulent tout ce qui est nouveau pour tout. On dit en anglais, trouver un « edge », c'est-à-dire trouver un avantage, si minime qu'il soit. C'est une constante quête de l'excellence. Et ça, c'est commun à tous ces grands, grands athlètes-là. Tu sais, je me rappelle, on était à Ottawa, puis on avait finalement passé nos locaux là, à l'équipe Canada là, durant le championnat du monde.
En 2016?
Pas championnat du monde, excuse-moi, pas championnat du monde, on a World Cup.
La Coupe du monde à Toronto, oui, puis Ottawa, ça va être ça d'entraînement, c'est ça, oui.
C'est ça, et à tous les matins, parce que j'étais là, puis j'étais quand même témoin de ce qui se passait, et dans les témoins, à tous les matins. C'était qui les trois premiers arrivés à l'aréna. Tu sais, les joueurs devaient arriver entre 8h30 puis 9h, des fois, mettons 8h, 8h30, mais tous les matins, entre 6h30 et 7h, les trois mêmes individus. Crosby, Taves, Tavares.
Ouais, yeah.
Et ça, c'est des signes d'individus qui sont dédiés bien au-delà des exigences, bien au-delà de l'excellence habituelle. C'est des individus qui comprennent pas juste l'impact sur ce que eux vont faire, mais l'impact sur tout l'environnement. Et quand t'as des gens comme ça qui étirent le standard continuellement, ben tu peux pas stagner. Et c'est pour ça que des équipes comme Pittsburgh ont gagné à plusieurs reprises. C'est pour ça que Chicago a gagné à plusieurs reprises. Alors, c'est pas des hasards, c'est pas des gens qui sont nés comme ça. C'est des gens qui ont développé ces attitudes-là avec le temps. Et quand on parle d'experts, on parle que ça prend à peu près 10 000 heures pour que quelqu'un devienne un expert. Et évidemment, tous ces individus-là ont fait leurs 10 000 heures très, très, très tôt. C'est comme Beethoven. Ils ont dit que c'était un génie. Mais oui, mais à l'âge de 2 ans, il commençait à jouer du piano avec son père qui était professeur. Fait que c'est sûr qu'à l'âge de 12 ans, il écrit sa première symphonie. Ils sont 10 000 heures, il l'a fait extrêmement tôt. Et un gars comme Crosby, c'est la même chose. Tiger Woods, exactement la même chose. C'est que c'est des individus, on va dire, ils sont nés comme ça, je m'excuse, c'est des individus que très tôt ont mis les heures. Je me rappelle d'avoir des conversations avec Sidney Crosby. Lui, il n'y avait pas d'été. ces étés, c'est de s'entraîner deux fois par jour. Puis dans les nouvelles tendances, aujourd'hui, on parle de pliométrie et tout ça, mais dans ce temps-là, personne ne parlait de ça. Mais c'est parce que lui-même, son père me disait, c'est pas moi. C'est lui qui était toujours en quête et en recherche de ça. Les gens disent, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas une vie. Mais oui, lui, c'était sa passion. Puis durant la saison, alors que tout le monde était fatigué à un moment donné, tout ça, lui, là, il dit, regarde, moi, c'est mon moment le plus facile de l'année. Il dit, mon entraînement d'été est bien plus difficile que ça.
Hey Guy, tu fais-tu une meilleure anecdote? Puis c'est pour ça que ça nous a tous conquis. Quand tu sais ça d'un joueur de hockey, là, tu te rappelles, il y a une coupe d'hiver. Je sais pas c'était quoi la pause. Je pense que c'était la semaine de break des Pingouins. Je sais pas si ça s'est venu à tes oreilles, sûrement, cette histoire-là. J'aime ça, la Tremblant aussi. Puis je connais les patinoires, parce que moi aussi, quand j'y vais, je fréquente les patinoires extérieures à Tremblant. Oui, une sur le bord du lac, puis une en haut de la côte, pas loin de l'aréna, plus à l'abri. Crosby se présente là un matin, s'en va patiner là. Puis si ma mémoire est bonne, le petit gars qui était là, un jeune midget autour, un petit gars qui s'appelait Guillaume, il voit Crosby débarquer. Écoute, le gars est dans sa semaine de break. Il débarque sur une patinoire dehors à moins 15. Il met des bottines pour pratiquer des petites affaires de même. Écoute, à moins que c'était stagé avec le gars des vues, là, pour faire parler de lui, puis je pense pas, là, ça avait l'air vraiment sincère et candide.
Non, c'est ça.
Je sais que c'était pas ça, mais je veux dire, une fois que tu sais ça du gars, tu sais, comment dirais-je? Tu sais, c'est ma foi, tu sais, waouh, c'est l'ultime histoire, là. Je sais pas s'il y en a ben qui font. On disait ça de Chelios dans les rues de Montréal quand il était jeune. Mais je sais que Chelios,
c'est un engagement total, là. C'est un engagement total. C'est né, là, à 16 et 17 ans, là, tu sais, alors que tout le monde, tu te découvres, t'es jeune, tout le monde sort, tu sais, ça boit un peu, puis ci, puis ça. Mais lui, là, jamais bu, jamais été d'un bar. Ses desserts, là, c'était des raisins entourés de yogourt. jamais de coke, jamais ses affaires. Tu sais, c'était un engagement total. Il dit, gars, moi, je veux pas de blonde. Moi, je veux être le meilleur au monde. Puis chaque temps que je passe avec une fille, ben, ça me fait perdre du temps sur sur ce que je veux. Et tu sais, c'est un engagement total. Je me rappelle, les journées de congé, il avait 16 ans, on essayait de se faire comprendre. Il faut que tu prennes des journées de congé. T'as jamais joué autant de matchs que ça. Puis à un moment donné, c'était grave, là, il ne nous écoutait pas, là, il venait à l'aréna tout le temps, puis à un moment donné, on a dit, garde, c'est les journées de congé, il n'y a pas personne, l'aréna fermée. Ben écoute, il avait caché ses patins, il était parti avec ses patins, puis il avait trouvé, il était où le gars, où vivait le gars de Zamboni, puis il avait des cognants à sa porte, demandé d'ouvrir la patinoire, puis il est allé patiner.
Ah, c'est tellement bon. Des histoires de même, là, c'est du sirop d'érable, c'est crêpes,
pour,
là.
Ben oui, puis c'est pas pour montrer aux gens, là, il n'y a personne qui savait ça, là. Il n'a pas fait ça pour le show, il n'a pas fait ça pour impressionner personne. On l'a su par le détour, là. Fait que, tu sais, c'est pas des hasards, là. C'est pas des hasards que ces gens-là, c'est des phénomènes. Tu sais, je me rappelle Stamkos. Il y avait un lancer phénoménal et la vitesse phénoménale à ce moment-là. Puis, tu sais, il était sur le même beat que Ovechkin à ce moment-là. Mais là, il y a eu plusieurs blessures, puis ainsi de suite. Mais pour le nombre, tu sais, pour son lancer puis son patin, après ça, moi, j'ai appris que toute sa vie, là, il allait à toutes les écoles d'apprendre à lancer, puis toutes les écoles de patin, là. Il en manquait pas une dans la région de Toronto. Fait que, tu sais, c'est ce dévouement-là, c'est cet engagement-là qui fait que ces individus sont des phénomènes. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est, ah, ben, ils sont nés talentueux. Oui, il y en a qui sont nés avec certaines propensions plus que d'autres, mais il y a des gens, moi, j'ai connu des gens plus talentueux que d'autres, que certains gars qui sont dans le national qui étaient considérés talentueux, mais ils n'avaient pas du tout cet engagement-là, ils n'avaient pas du tout cette fibre-là d'aller au-delà, puis de se dépasser, puis d'essayer d'acquérir des standards inatteignables. Alors, c'est vraiment une question de sacrifice et d'engagement et de nombre d'heures et de minutes qui sont à la base du succès de ces gens-là.
Hey, je pensais pas qu'on prendrait cette direction-là, mais écoute, c'est tellement des bonnes histoires, Guy, que je pouvais pas nous ramener au petit quotidien du Canadien, mais je vais quand même t'en lancer juste une et on conclura là-dessus. J'aimerais ça à t'écouter, tu sais, tu parles dans le fond des gens jamais satisfaits. J'aimerais ça qu'il y ait plus d'insatisfaits, puis je dis pas que les gars sont satisfaits chez le Canadien en ce moment, mais dans les points de presse, dans les clips, j'aimerais ça sentir plus d'insatisfaction et de désir de revirer ça que des gars un peu débinés, des gars un peu morts, des gars un peu éteints, ça m'énerve. Toi, qu'est-ce que t'as à dire, coach, là-dessus?
Ben, je suis d'accord, ça énerve tout le monde, mais si on prend nos vies, là, prenez vos moments accablants de la vie, là, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation quelconque, que ce soit la mort de quelqu'un, que ce soit peu importe, là, quelqu'un de malade ou une perte de quelque chose, tu sais, c'est un accablement. Puis dans un accablement, on est défait. On est détruit, on se reconnaît pas, on a de la misère émotionnellement, on a de la misère à gérer, on a de la misère à se raplomber, on a de la misère à trouver du support, on a de la misère. Ben c'est ça, là. Ces gars-là, en ce moment, il n'y a pas personne qui veut pas performer, il n'y a pas personne qui
non,
veut pas travailler, il n'y a pas personne. Ça. Ils sont tous désemparés, ils sont tous déçus d'eux-mêmes. Ils cherchent toute une solution. Puis pas juste ça, c'est qu'ils sont confrontés et c'est là que c'est difficile. C'est comme je viens de dire avec des gens qui ont des problèmes dans la vie, même des problèmes de santé mentale, et ainsi de suite. C'est qu'à un moment donné, tu es confronté à tes limites. Et c'est là souvent que l'accablement devient très difficile à gérer. Parce que, un, de comprendre tes limites, de les rencontrer, de les atteindre, ça devient très difficile à accepter parce que là, tu fais face à ce qui est inadéquat dans ce que tu es capable de faire. Mais ça, c'est dur sur le moral, c'est dur sur l'orgueil, c'est dur sur l'estime de soi. Et c'est pour ça que dans des moments comme ça, en ce moment, on dit pas ils travaillent pas, ils font pas ci, ils font pas ça. Et ça va bien au-delà de ça. C'est que tu perds tes capacités. Puis il y en a qui vont dire la pression. Ils vont dire mais c'est l'accablement, c'est pire que la pression. Parce que l'accablement te fait vraiment perdre tout ton enthousiasme, te fait perdre tes capacités. Et non seulement ça, c'est contagieux pour ton entourage. Puis c'est pas juste ce que tu dis, c'est même pas juste ce que tu fais. C'est ton langage non verbal. 80% du langage est non verbal. Donc tout le monde dans cette chambre-là capte le non-verbal de tout le monde. Vous imaginez la contagion négative et accablante. Alors, c'est pas juste un accablement d'un individu, c'est bien pire que ça. C'est contagieux en termes de collectivité.
Et combien de temps tu peux laisser ça aller comme organisation, Guy, en terminant? Excuse, mais ça m'inspire celle-là. Combien de temps tu peux laisser ça aller si les résultats changent pas ou si tu sens pas une progression?
Tu veux jamais rien laisser aller, c'est clair, là. Mais si tu cherches toutes les solutions avant de faire quelque chose de drastique, c'est sûr, tu sais, il y a des choses à l'intérieur de l'équipe qui peuvent être faites, il y a des combinaisons qui n'ont pas été faites encore, il y a des joueurs qui sont pas revenus, il y a des interventions qui n'ont pas été faites, c'est sûr encore, là, tu sais, il y a des. Par contre, quand tu es limité, tu sais, on veut pas l'entendre. Le Canadien est pas limité par son personnel en ce moment. Il est extrêmement limité, mais personne veut l'entendre. Il y en a qui vont dire, ils ont pas de club. Ils ont pas de club présentement. Puis même les joueurs qui habituellement performeraient, ben ils ont pas la capacité de d'aller au-delà parce qu'ils sont pas non plus entourés par assez de joueurs qui sont aptes à gérer ça. Fait que t'auras beau amener Scott et Bowman, puis t'auras beau amener l'autre gars, là, moi, les gars, ça change rien. Hey, ça change quand, puis ça, c'est prouvé dans la Ligue nationale, on parle, puis pas juste nationale, tous les sports, quand on met les entraîneurs dehors, on pense que ça a un impact énorme, puis que, parce qu'on se rappelle juste des petits pourcentages de réussite. La grande majorité du temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien. C'est les mêmes résultats. Puis des fois, ben, je pense que c'est un 15% qu'il y a une amélioration, puis je pense que c'est un 15% que c'est pire, puis donc il te reste 70% du temps que tu fais des changements, ça ne change absolument rien. La raison est très simple, c'est que quand tu n'as pas l'équipe, tu auras beau mettre n'importe qui à la tête de ça, tu n'auras pas mieux. Tu n'as pas les chevaux. Alors le Canadien, tant que les joueurs ne reviennent pas, ne peuvent pas aspirer à mieux. C'est aussi simple que ça.
Écoute, il n'y a rien à ajouter là-dessus. c'est ça qui est ça, mon Guy. Un gros merci. Ben écoute, c'est pas parce que j'ai pas envie de continuer, mais là, l'horloge me rattrape. Merci, Guy. C'était excellent. Et puis, une excellente fin de soirée. On s'en reparle la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Puis là, c'est le week-end de l'Action de grâce, tellement déterminant. Je vais te dire une affaire. Quand on va se retrouver en début de semaine prochaine, là, en tout cas, si on ne sait pas déjà à quoi s'en tenir, on va le savoir encore plus.
Ben merci. Ben bonne soirée tout le monde.
Bye-bye, Guy. Merci. Ciao. Sans plus tarder, Maxime Lapierre. Salut, Maxime.
Salut, Mario.
T'entends parler du dossier de Québec. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler en ondes, sans doute, dans votre balado avec Guillaume à la poche bleue. C'est-tu quelque chose qui t'excite? C'est-tu quelque chose qui t'a fait rigoler au début? Il y en a qui ont trouvé ça farfelu. Toi, non, comment t'as réagi à ça?
Ben moi, j'aimerais ça. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on en parle, mais puis je sais pas à quel point c'est loin ou c'est près d'arriver, mais c'est le jour que ça va arriver, moi, je vais être heureux de voir ça. Ça me rappelle de... T'sais-tu quoi, Mario? C'est le premier match de hockey que j'ai vu dans ma vie de la Ligue nationale. C'est à Québec contre le Lightning de Tampa Bay.
Ah oui?
Je me rappelle de comme si c'était hier. J'étais allé avec mon père, on a regardé ça, puis c'est la première fois que je voyais un match. C'était impressionnant.
Et pourquoi à Québec plutôt qu'à Montréal à l'époque? Est-ce que tu étais géographiquement situé plus près de là?
Non, j'étais plus proche de Montréal, mais je me semble, j'imagine, l'étiquette était peut-être un peu moins moins cher. C'était peut-être ça.
Ben, sans doute un bon facteur, puis toutes les raisons sont bonnes. Mais, c'est en quelle année, si tu te rappelles-tu des joueurs qui étaient dans l'édition des Nordiques de cette année-là?
Honnêtement, aucun souvenir. Je me rappelle juste de quand je... maximum 10 ans, 10-12 ans peut-être. Peut-être un peu plus vieux. Je me rappelle même pas c'était en quelle année. Je sais que j'étais dans le hockey mineur. Là. Ça fait longtemps à tabarouette.
Ton hockey mineur, tu l'as joué où, toi, Maxime?
Repentigny.
OK.
Oui.
Une belle région de hockey. T'as connu des gars comme Daniel Maurice? Non, il est beaucoup
non.
plus vieux que toi.
Non, moi, j'étais dans ma génération. Là, c'était plus les Jason Bomainville, Yannick Leroux, Pascal Leclerc. T'sais, il était un petit peu plus vieux que moi, eux autres, mais c'est eux que je voyais jouer là, juste avant moi dans le hockey double lettre.
Ah, tu veux, je voulais. C'était pas une diversion avant de parler du Canadien. Je te vois. On se parle évidemment en ondes, en dehors des ondes. Je te vois sur Twitter également. Et chaque contre-performance, comme celle à laquelle on a cité hier, où le Canadien se fait complètement sortir de la glace en première période, ça te laisse complètement perplexe. Tu te questionnes. C'est quoi les plus grosses questions que tu te poses en ce moment, Maxime, par rapport à ce qu'on voit là? Puis moi, j'en ai une autre. C'est combien de temps tu penses qu'on peut laisser ça aller?
Ben, je me pose beaucoup de questions, puis premièrement, là, je trouve important de spécifier avant, là, pour les gens qui me connaissent dans mon entourage, moi je suis positif, là, ça m'en prend pas mal pour pas me faire sourire, admettons, là, puis c'est l'effort, Mario. Tu sais, moi je pourrais regarder une équipe perdre 82 matchs, mais quand je les regarde rentrer dans le vestiaire, je me sens mal pour eux autres, tu sais, s'ils ont travaillé, là c'est pas le cas, là c'est comme, là, voyons donc, là, arrêtez, là. Après le premier but hier, là, quand Jeff Petrie se fait contourner, là, peu importe c'est quoi l'excuse, que ça n'aille pas bien dehors de la glace, qu'il soit blessé, peu importe, c'est la Ligue nationale de hockey, c'est impossible de se faire contourner comme ça. Puis après, il a eu la chance de se reprendre puis aller vers le gars derrière le filet, puis il continue même pas. Tu sais, c'est comme si ça ne tente pas. Tu sais, il peut bien dire que ça va pas bien cette année, puis il joue pas au niveau qu'il devrait, là. Mais je le regarde sa patinoire, puis c'est comme, voyons, pourquoi t'es ici à soir? Tu sais, j'ai vu des gars que ça va mal, là, mais là ça fait 20 games de suite, là.
Sais-tu comment je vois ça? Ça fait une couple de fois que tu pointes en direction de Petrie, Max, quand on est critique, évidemment, il faut bien trouver des responsables là, du fait que ça aille mal. Puis je sais pas si tu vas être d'accord. Quand ça va vraiment mal, puis on s'entend que ça coche check pas mal à tout ce qui est une situation qui va vraiment mal, c'est que c'est que tout le monde passe à la moulinette. Et évidemment qu'on va regarder les meilleurs joueurs. Puis souvent, il y a tellement eu un manque de bons joueurs que les meilleurs joueurs ont été épluchés sur la place publique,
ben oui,
comme si c'était des pas bons. Puis moi, je pense que Jeff Petrie demeure un bon joueur d'hockey, donc peut-être les meilleures années sont derrière. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve dans son cas. Là, actuellement, c'est sûr qu'il paraît pas bien, mais puis je dis pas ça pour défendre Petrie dans ta critique. Je dis juste que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est des séances de tir. C'est qui le next? OK, là, c'est Petrie. Demain, ça va être Toffoli. Tout ça. Mais comment tant que tu vas laisser ça durer? C'est quelque part, c'est collectivement que c'est une déroute, là.
Ben oui, non, mais là, je te parle de Petrie, mais là, je pourrais t'en nommer pas mal plus de joueurs. J'ai juste la séquence en tête, là, que pour moi, c'est pas normal de se faire
contourner
comme ça pour un vétéran de la sorte, là, que je même comprends. Si t'es blessé, t'es capable de protéger ta glace. Moi, pour moi, c'est un manque d'effort, là. Tu sais, c'est sûr qu'en défensive, y a pas personne qui m'impère. Tu sais, y a juste Romanov, que tu regardes, même s'il fait plein d'erreurs, tu te dis, lui, ça y tente de gagner à soir. Tu sais, il va faire n'importe quoi pour réveiller l'équipe, que ce soit une mauvaise pénalité, que ce soit une mise en échec qu'il n'y a pas besoin de donner, mais au moins, tu vois une certaine volonté, tu sais, c'est ce que je vois du côté de la défensive, mais tu me parles de qu'est-ce qui va pas bien, Mario, tu sais. Regardes le match d'hier, là. Ouais. On s'en va jouer une équipe pas mal plus forte que nous, c'est correct, ça, je suis capable de vivre avec ça, mais Suzuki, Anderson, Armia, pas de lancer au but. Tu sais, en partant, là, c'est des gars importants, c'est des gars qui ont du talent, tu sais, juste d'avoir un lancer au filet dans un match, ça a pas de bon sens. Après ça, tu y vas de, tu sais, je vais y aller dans les statistiques, puis c'est rare que je prenne statistiques, mais ça m'impressionne de voir ça. Hier, Gallagher, Caulfield, Paling, Dvorak, Armia, Lekkonen, Evans, pas de mise en échec.
Aïe, aïe.
Ça a pas de bon sens, là, Mario, là. Tu t'en vas jouer un match, la seule arme que t'as, c'est de compétitionner, parce qu'on s'entend que talent, même si Washington manquait beaucoup de joueurs, on n'est pas de taille de côté talent pur avec cette équipe-là. Donc, c'est quoi l'option B? C'est de travailler, frapper, bloquer des lancers, aller au filet. Puis là, je prendrais même pas le temps de dire les stats de lancers bloqués parce que ça vaut pas la peine. Tu sais, c'est pour moi, c'est ridicule.
T'as-tu une explication avant que je te lance toutes sortes de questions? Je veux dire, toi, là, seul, quand tu regardes ça, c'est quoi? Tu sais, puis appuyé par tout ce que tu as vécu dans différents groupes, des groupes qui allaient bien, des groupes qui allaient moins bien, c'est quoi les réponses qui te viennent en tête quand tu dis, parce que là, tu sais dans quelle direction vont tous les commentaires, mais toi, Max, c'est quoi les questions que tu... Comment tu t'expliques ça, au-delà que l'équipe n'ait pas de calibre ou elle manque de talent?
Bon, cela étant dit, je comprends très bien que quand tu es dans une situation comme ça, en tant que joueur, c'est très, très difficile de t'en sortir. Puis tu sais, je les entends parler aujourd'hui en entrevue pis tout ça. C'est vrai que c'est dur là, de perdre comme ça, puis ça change l'humeur du vestiaire. Des fois, ça crée des froids puis tout ça. Mais tu sais, normalement, là, qu'est-ce qui fait que tu t'en sors, c'est quand tout le monde commence à travailler, pousser dans la même direction, puis on... Je suis même pas capable de regarder l'équipe en ce moment puis me dire, bon, on en a 5 qui poussent dans la bonne direction. Si on est capable d'en ajouter au moins 2-3 par semaine, on va se rendre à la bonne place. Là, je sais même pas qui suivre. Tu sais pas si tu sais ce que je veux dire. Là.
Oui.
Suzuki joue bien à la maison, moins bien sa route. À part ça, Anderson, hier, là, c'était Tom Wilson. Tu regardes de l'autre côté puis tu te dis, c'est lui qui est supposé être ma compétition à soir parce qu'on s'entend que c'est deux joueurs dans le même moule. Là. Il est parti chez lui en riant après le match. Là. Faut s'entendre là-dessus. Anderson... Il frappe quand ça étante, il compte quand ça étante. Tu sais, c'est, on est inconstant, Mario, puis c'est frustrant de voir ça. Tu sais, les joueurs de hockey, on s'en va à l'aréna, on veut tout gagner, là, puis on veut tout bien faire. Mais à un moment donné, faut, tu sais, si c'était 5 matchs, je leur donnerais une chance, là, puis j'étais même, à un moment donné, tu riais de moi parce que je disais ils vont faire les séries, là.
mais, je te taquinais.
Non,
parce que...
ouais, non, mais pas riais, mais tu sais, j'ai été patient quand même.
Oui,
mais là,
à
un moment donné, Mario, là, c'est le quart de la saison qui est passé. Là.
On oublie ça, là.
Ben pas, on oublie pas.
T'es
ouais,
pas prêt à le dire.
On oublie ça. Si continue avec l'attitude, si on décide de tourner de bord, puis tout le monde commence à travailler, puis bloquer des shots, puis là tu des lancers, je veux dire, puis là tu vois tout le monde frapper, puis c'est tu sors après chaque match, même quand on perd, tu te dis c'était incroyable comment que cette équipe-là travaille. Peut-être parce qu'il y a rien d'impossible dans le sport. Mais là, tu regardes, on est à plusieurs points d'une place en série, puis il y a plusieurs équipes qui compétitionnent pour 2-3 places. Ça va être très difficile.
Il n'y a aucun indice, honnêtement. Là, tu vois-tu un indice crédible à l'horizon qui permette vraiment d'y croire dans la performance d'un ou de quelques joueurs? T'sais, opérations fierté sont rares, là.
Ben écoute, pour moi, hier, si tu regardes Evans, Lekkonen, Gallagher, au moins, je suis capable de dire, même si depuis le début de la saison, ça a été difficile, je suis capable de dire que Gallagher s'est peut-être sorti un peu de sa léthargie. Là. Il travaille, il patine beaucoup mieux, il va au filet, il fait ses affaires. Là, Gallagher, je pense qu'il est arrivé. Puis ça, c'est important, mais à un moment donné, Mario, si Evans, puis Lekkonen, puis Gallagher sont capables de dominer un match de hockey, puis je dis dominer, là, c'est un grand mot, là, ils sont où les autres? Tu sais, qu'est-ce qu'ils font les autres joueurs, honnêtement? On peut bien dire qu'on s'en va puis qu'on tire ses joueurs puis qu'on les détruit et tout ça, mais j'ai joué dans des mauvaises équipes, j'ai joué avec des gars qui avaient des mauvaises séquences, mais j'étais mal pour eux autres. Je me disais, inquiète-toi pas, mon homme, tu vas t'en sortir parce que la façon que tu travailles, ça va arriver à un moment donné. Là, t'es-tu capable de m'en nommer un, honnêtement?
De nommer un gars qui travaille, ben tu l'as nommé.
Ouais,
ben Evans Ramanov, tu sais, les gars là. Qui jouent avec fierté, là, je suis d'accord.
Mais enlève ces trois-là.
C'est pas sorcier, Maxime. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand Marc Bergevin dit « j'ai vu dès le camp d'entraînement », on voyait tous la même chose. Je veux dire, lui, il disait pas tous les jours, il faisait pas une conférence de presse pour dire « j'aime pas ce que je vois », mais tu sais, c'est du hockey, là. On a beau, des fois, il y a peut-être des subtilités qui sont captées juste par les yeux d'experts, mais je veux dire, l'effort, c'est quand, tu sais, c'est perceptible, l'engagement, le désir de vaincre, la fierté. Il y a pas rien sur le radar là dans ça. Puis je veux dire, tu sais, en même temps, moi je veux pas tomber dans le procès de joueurs, mais je pense qu'il y a des joueurs qui polluent l'atmosphère dans le groupe nécessairement. Puis je dis pas que c'est par mauvaise volonté, mais le casse-tête est mauvais. C'est pas un bon puzzle. Marc Bergevin a pas livré une excellente équipe à son coach, puis en plus les blessures qu'il faut pas j'oublie de dire du même souffle parce que c'est pas être fair, tu sais, mais
je suis d'accord. Puis Mario, je te le dis, moi pour moi c'est un effort d'être négatif là, puis ça m'énerve là. Je déteste avoir à parler.
C'est pesant
et j'aime pas ça, mais ce que j'aime pas, tu sais, pour conclure sur ce dossier là dans le fond, ce que j'aime pas en général, c'est qu'on dirait qu'on l'accepte. Tu sais, c'est agaçant un petit peu.
Est-ce que, Maxime, parce que là, les gens pointent, évidemment, cherchent des coupables. Bon, là, il y en a qui veulent que Petrie soit en congé. Il y en a qui veulent que, tu sais, bon, Petrie est sur bien des lèvres. Il y a le coach aussi du charme dont beaucoup de gens parlent dans le public en général. Moi, je vais te dire ceci, là, Max, là. Il n'y a pas un coach, à moins que ce soit quelqu'un en désespoir de cause d'avoir l'opportunité de sa vie de coacher un club dans la Ligue nationale. Il n'y a pas un coach, disons, qui est sollicité par plus d'une équipe qui accepterait de venir diriger le Canadien en ce moment.
Ben c'est sûr que en ce moment c'est pas l'équipe que tu veux avoir pour faire reluire ta carrière comme entraîneur puis qui va t'amener à l'autre niveau, c'est sûr et certain. Puis tu sais, on parle de ce qui se passe en haut, puis je comprends là, de la business c'est compliqué, c'est pas on parle toujours entre nous là que ce soit les anciens joueurs ou avec toi Mario et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut c'est complexe là gérer une équipe de hockey, puis le travail de Marc Bergevin, c'est un des travails les plus difficiles dans le monde du sport là, faut s'entendre là-dessus là. Mais cela étant dit, c'est que tu sais, on le sait. Est-ce que c'est presque confirmé à l'extérieur qu'il reviendra pas? Je pense que dans sa façon de parler, de s'adresser aux médias, puis tout, on peut le sentir là quand même, là, à moins que ça change de direction totalement durant le reste de la saison, puis que si on le signe, ça me surprendrait énormément, mais ça part d'en haut, tu sais, à un moment donné, qui donne les directions, les directives, qui dit à Ducharme, ben je vais te rappeler un gars pour t'aider, tu sais, on dirait que il y a un manque de connexion en haut entre l'entraîneur puis le directeur général, et puis après ça, ben ça s'en va vers les joueurs, c'est sûr et certain. Est-ce que ça a un impact sur les joueurs, sur la patinoire? C'est pas supposé, par contre. C'est supposé avoir un impact sur un joueur qui a peur de pas revenir parce que Marc Bergevin, c'était son meilleur chum, puis ils me signeront plus si l'autre GM, le directeur général arrive puis il me signe pas. Ça, c'est une chose, mais quand t'es en bac, ça reste que tu patines, tu frappes, tu vas au filet, puis tu donnes tout ce que t'as. Tu sais, des problèmes, t'es laissé en dehors. C'est ta responsabilité comme athlète professionnel de laisser tes problèmes en dehors du vestiaire, puis ça va pas tout le monde faire ton travail.
Crois-tu que... Tu sais, Claude Julien, Michel Therrien, c'était des entraîneurs d'expérience, mais c'est un fait connu que le directeur général a été très près de ses entraîneurs. Mais tu sais, Michel Therrien, c'est quand même un gars qui a du millage professionnel dans la Ligue nationale, Claude Julien également, fait que j'imagine que les gars... Tu sais, est-ce que ça se pourrait que Marc Bergevin, en prenant beaucoup, beaucoup de place, fasse de l'ombre à son coach, parce qu'il est descendu dans le vestiaire déjà quelques reprises. Puis bon, penses-tu que c'est possible? Je sais pas si tu as déjà joué dans des équipes où les DG étaient omniprésents. Puis avec un coach recru, tu penses-tu que dans le fond, les gars se disent, ben regarde, c'est pas lui qui mène, c'est l'autre à côté, là.
OK, mais mettons que c'est ça le cas, Mario. Ben quand Bergevin est descendu dans le vestiaire, on s'entend que le message n'a pas passé non plus.
C'est un fait.
Exactement. Puis on s'entend que l'année passée... Ce qu'on se dit en ce moment sur l'éthique de travail de l'équipe, on se le disait sous les ordres de Claude Julien l'an passé aussi.
Oui. Bon, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que ça me dit à moi, Mario?
C'est une tendance lourde.
C'est une tendance très lourde, puis c'est pas un échantillon, un petit échantillon qu'on a, là. L'année passée, tout allait mal jusqu'à temps qu'on se réveille un petit peu avant les séries. On est entré avec un momentum et c'est correct. Mais si on enlevons les séries de l'équation, là, on a un problème d'éthique de travail dans cette équipe-là. Puis ça dure depuis longtemps. C'est pas 15 matchs, là. Fais le calcul, Mario, là. C'est l'année passée, on a joué juste, je pense, 52 parties, là.
As-tu déjà été d'une équipe qui avait un problème d'éthique de travail?
Non. Je dis ça en toute honnêteté, non.
Oui, non, c'est ça, je me demandais. Faut-il craindre le coach pour travailler plus fort? Faut-il avoir peur du coach? C'est-tu encore ça qui marche?
Ben, je pense que ça part de tes modes. Tu sais, le modèle qui était assis à côté de toi dans le vestiaire, les gars qui sont sur la patinoire, tu sais, moi, je regardais vite de même, là, c'est facile, là, je regardais la défense, j'avais Francis Bouillon, puis je regardais à l'attaque, j'avais Steve Bégin. C'était pas des scoreurs de 50 buts, là. Mais je peux te dire que lorsque je les regardais lors d'un entraînement, je te gêne de prendre une journée de congé. Puis moi aussi, j'avais ça. Tu sais, c'est inné pour moi de vouloir travailler sa patinoire parce que j'ai une passion pour le hockey. Puis c'est un des seuls outils que j'ai dans mon coffre à outils, c'est de travailler puis patiner. Mais quand je regardais en entour, je voyais des gars comme ça. Ça t'amenait dans la bonne direction. Tu sais, il y a des gars qui c'est des compteurs de buts naturels, des patineurs naturels. Il y en a aussi que c'est des travailleurs naturels. Mais du côté du Canadien, c'est qui les travailleurs naturels à part Gallagher?
Mais c'est ça qui est étonnant. Je sais pas, tu sais, c'est une équipe de dentelle, une équipe de finesse. Tu sais, il y a pas, tu sais, des gars de caractère. À qui tu peux étiqueter en lettres majuscules, là? Caractère. Joueur de caractère. C'est bon. Gallagher.
C'est difficile. Ben, je pense
Romanoff en démontre. C'est un jeune qui en démontre. Lekkonen a peut-être une façon d'exprimer du caractère, je crois. Mais tu sais, des gars de. Puis je vais te dire une autre affaire. Puis j'en ai parlé avec Danny, là. Moi, là, tu diras que je suis un rétrograde, mais j'aurais un gars, tu sais, des Wilson, des Tom Wilson, il y en a pas partout, des gars qui savent jouer au hockey puis qui imposent le respect à leur façon, puis même à la limite, c'est pas mon préféré. Mais moi, là, c'est sûr que j'en aurais un gars de même. Tant qu'à perdre, on va se faire respecter de temps en temps quand on fait abuser de nous autres. Puis si toutes les flamèches sont bonnes pour allumer mon club, ben, je veux des flamèches d'un gars qui sait jouer au hockey puis qui amène le respect. Tu vas me dire, Anderson peut faire la job puis il fait rien. Edmondson va revenir, il peut faire la job, mais j'en aurais un plus typique, là, un meilleur. Puis tu sais, je sais qu'il y en a pas des tonnes, mais tant qu'à passer 3-4 années de reconstruction où il faudra sécuriser des jeunes où on sera pas des aspirants, ben amène des petites flamèches de temps en temps comme ça. Tu sais, on avait essayé Cashin, ça n'a pas marché, mais il joue encore dans la Ligue Edmonton. Ouais. Mais tu vois le genre de joueur, tu sais, je te parle d'un joueur de hockey, mais qui a pas peur de dropper mitaine. Désolé pour ceux qui sont passés à un autre appel, mais c'est encore permis dans la Ligue. Puis moi, j'en voudrais un dans mon club.
Moi, je comprends ce que tu veux dire. Puis tu sais, on est souvent distrait parce que fait Tom Wilson sur la patinoire de mauvais, mais il y a 95% de ce qu'il fait qui est très très bon puis très important pour une équipe. Les combats puis les mises en échec douteuses, ça c'est une chose, mais ça, il reste que des gars qui sont capables de jouer au hockey. Il y en a plus des gars qui font juste se battre pour eux.
Non, ben non, métier, tu peux pas. Il reste pas dans la ligue. Donc ça va de soi que ça prend un gars qui peut jouer, puis c'est pas avec ça que tu règles un problème. Mais non, il reste que oui, Max.
Mais tu sais, Mario, c'est parce que pendant que tu me parlais tantôt, j'ai oublié ça, puis je voulais. C'est important pour moi de le mentionner. Ce qui me fait peur aussi, c'est que tu sais, quand tu regardes l'alignement du Canadien, c'est tous des bons gars. Là, on va s'entendre. La plupart des joueurs de hockey, c'est des bons gars. Puis j'en doute pas qu'aller prendre une bière avec eux autres, c'est un honneur puis c'est plaisant. Mais si tu regardes là, les joueurs qu'on a, Toffoli, tu sais, les Dvorak, les Anderson, pourquoi ces gars-là, s'ils étaient si bons, les équipes les ont laissés partir pour rien?
Mm-hmm.
Tu sais, là, Anderson, il est gros, il est fort, il patine. Il est capable de compter une fois de temps en temps, mais on l'a échangé contre un Domi qu'on le savait de l'autre côté qu'on le voulait plus du tout. Okay? Dvorak, on est en reconstruction en Arizona. C'est un jeune joueur de centre quand même. Là, il est un petit peu plus vieux que ce qu'on a besoin pour reconstruire, mais ça reste qu'il était supposé d'être un très, très bon joueur là-bas. Là. On s'en débarrasse. Toffoli, c'est un compteur naturel. 4 millions par année ou 4,5, s'il coûte pas si cher que ça, on s'en débarrasse. T'sais, quand tu commences à regarder ça, là, pourquoi Hoffman? T'sais, Hoffman, il compte 30 buts par année, mais il est pas capable de rester dans une équipe plus qu'un an.
Non, mais c'est bon ce que tu dis, Max. C'est vrai, pareil. Regarde, tous ces gars-là deviennent disponibles. Toi, t'as un paquet d'argent tout d'un coup à dépenser. Il y a des gars qui avaient de la valeur puis qui étaient bons sur la glace que tu laisses filer puis là, tu dis, non, là, tu vois une opportunité dans la division canadienne, tu distribues dizaines de millions puis OK, t'as gagné la division canadienne. Et Vegas, faut pas l'oublier. Oh!
Non, mais tu sais, il y en a d'autres, là. Il y a Nico Weinman. Il y en a des joueurs qu'on est allé chercher, puis tu te dis, s'ils sont si bons que ça, pourquoi que les équipes, ils font juste les abandonner de l'autre côté?
Mm. Il y en a d'autres qui ont le même profil. Oui, Maxime, absolument. Fait que je te souhaite une bonne soirée. Et
merci.
Malgré tout, mon Max. Et puis, hey, écoute, j'avais bien d'autres sujets, mais là, ça a parti, puis on va se repogner ces autres sujets la semaine prochaine, Maxime. Coudonc.
Salut, mon Mario. Attention à toi. Toujours un honneur de parler avec toi.
T'es tellement gentil et c'est partagé. Merci, Maxime. Bonne fin de soirée. Bye-bye.
C'est 23.